RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je suis en présence de Catherine et Fanny. Toutes les deux, vous représentez l'association L'Apothéose et bonjour.
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 Alors, on est ensemble pour un petit moment, histoire de présenter le 9e marché potier.
C'est ça, oui.
Pour la 9e année consécutive.
Adi.
Comme tous les ans, ce marché va se tenir sur la place du Mazel, je pense.
Oui.
Présentez-nous un peu cet événement.
Alors donc, c'est un marché qui va regrouper 31 potiers. Donc, ils sont venus de essentiellement Rhône-Alpes et aussi du Languedoc-Roussillon, de l'Hérault. Il y a l'Auvergne qui est représentée aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup la Drôme, 16 potiers de la Drôme. Voilà. Et de Lyon aussi, de Saint-Étienne. Sinon, du coin, beaucoup de Die, de Barnave, une de Pontet.
Quasiment tous les potiers, potières du coin seront présents, en fait.
Oui.
Tous ceux qui ont une prod en ce moment sur le Diwa seront présents, et quelques-uns du Crétois aussi.
Et quelques-uns qui ne sont pas potiers, comme toi, par exemple.
En fait, tout à l'heure, on parlait de... En se présentant, je me suis présentée plutôt comme céramiste. Et c'est une question que les gens y posent souvent. C'est quoi la différence entre la poterie et la céramique? Du coup, on va l'expliquer comme ça sera réglé.
Ça sera clair.
Voilà. Du coup, la céramique, c'est vraiment le fait de cuire la terre et de la fermer d'une manière ou d'une autre, de la rendre... de la cuire, de la travailler. Et du coup, dans la céramique... Alors, après, on va peut-être avoir des explications différentes. Mais dans la céramique, pour moi, c'est le travail de la terre en général et le fait de la cuire. Et après, par exemple, la poterie, c'est de la céramique. Mais de la poterie, ça a vraiment la spécificité du travail autour, en fait.
Voilà. Ou utilitaire, je dirais.
Ou utilitaire. Et la céramique, du coup, ça prend en compte la poterie utilitaire, la poterie qui ne sert à rien, la sculpture,
et
le travail à la... Voilà. Moi, par exemple, je travaille à la plaque, donc ce n'est pas du tout la même technique, et c'est aussi de la céramique.
Je crois que tu as donné la meilleure explication du monde.
Voilà. Il y a aussi, moi je me rappelle avoir eu les flyers de l'année dernière, on voit le détail précis de chaque technique aussi, chaque terre. Alors est-ce qu'on pourrait faire, avant d'expliquer ça, est-ce qu'on pourrait faire un petit historique des marchés potiers à Die? Et peut-être de l'apothéose de cette association?
J'ai pas trop de renseignements dessus, parce que je suis arrivée en 2006 sur le marché de Die. Et il a commencé en 2003, en fait. Et au départ, ça a commencé au quartier Saint-Marcel. Et c'était en lien avec l'association du quartier Saint-Marcel. Et ça avait lieu donc sur le viaduc, une partie sur le viaduc, et dans le quartier début rue Buffardel. Et ça, ça a eu lieu en 2003 la première fois, et en 2004. Et ensuite, il y a eu une pause d'un an, et ça a repris en 2005. Alors là, je ne sais pas si c'était déjà au Mazel... Enfin, je ne sais plus exactement. En fait, ensuite, ça a eu lieu au Mazel, voilà. Après le viaduc, ce fut le Mazel.
Et c'est à partir de là qu'il y a eu une association spécialement dédiée qui a été... Non.
En fait, jusque-là, ça passait par le syndicat d'initiative. C'était un peu géré par les potiers, mais chaperonné sous la coupe avec le compte en banque du syndicat d'initiative. Et là, c'est que depuis cette année que ça a été repris intégralement par des potiers et des amis de potiers.
Oui.
Et c'est vraiment complètement géré. On a fondé cette association, l'Apothéose, cette année pour être autonome, en fait.
Mais le syndicat d'initiative aidait, en fait, il prêtait du matériel et puis aidait au niveau de gestion des comptes. Parce qu'en fait, les potiers envoient des chèques pour payer leur place. Et il fallait bien un compte pour mettre ces chèques dessus. Donc c'est le syndicat d'initiative qui prêtait son compte. Et nous mettait aussi, il y avait Paul Zeller qui s'occupait aussi avec nous du marché. Il faisait des démarches auprès de la mairie, auprès de l'imagerie pour les calicots, les choses comme ça. Et voilà. Et depuis cette année, c'est uniquement les potiers bénévoles, sans l'aide de Paul Zeller et des gens du syndicat d'initiative.
Et sans subvention.
On a demandé quand même une petite subvention, on ne l'a pas encore reçue, mais je pense qu'on va avoir quelque chose quand même de la Drôme.
L'objectif de ce marché de potiers, c'est avant tout de se faire connaître, de faire connaître aussi d'autres gens. Est-ce que 10 a un gros impact sur des ventes, par exemple? Ou alors, est-ce que c'est juste pour votre plaisir à vous, de se dire, tiens, on est tous ensemble ici et on se rassemble une fois dans l'année?
En fait, c'est super inégal selon les gens, je pense. Ce qu'on peut vendre à 10, après, c'est sûr que c'est pas le marché où tu te fais de l'or et tout. Mais pour moi, d'expérience personnelle, c'est le marché le plus sympa du monde.
Ouais, c'est ça. En fait, 10, c'est vraiment un super marché sympa.
Il y a de marché sympa. De la musique live et de la nourriture, de la vraie nourriture. Parce que, en fait, souvent, sur les marchés, on y va, ils nous donnent 3 tranches de saucisson desséchées. Et un verre de mauvais vin.
On va
vin.
Pas non plus les accabler. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Parce que souvent, ce sont les potiers qui organisent. Et donc, ils ont pas beaucoup de sous. Parce que donc, on fait payer une place. Mais voilà, ça fait un petit budget. Donc, il faut quand même acheter à manger pour les gens. On est sympa. Enfin, en général, c'est ça. Après, il y a des marchés où les gens doivent se débrouiller, acheter un sandwich. Mais voilà, là, les potiers vont être nourris. Et en plus, ils auront de la musique. Voilà. Ils auront un groupe qui vont jouer spécialement.
Puis c'est vrai que les gens qui viennent, en général, c'est aussi... comme dit, ça semble petit, on n'a pas tant de demandes que ça. Et c'est beaucoup des gens, finalement, qu'on connaît plus ou moins. Enfin, souvent, il y a une ambiance assez sympa sur le marché, en tout cas, quoi.
Ah voilà. Oui, c'est vrai. Il faut dire que c'est un marché qui dure sur une journée. Donc, les gens ne demandent pas... s'ils habitent loin, ils ne vont pas demander de venir une journée, parce que... Donc c'est vrai que c'est beaucoup les gens de la région qui peuvent se déplacer pour une journée.
Alors là, c'est la 9e édition, mais est-ce que justement vous avez des demandes, y compris des gens de la région, on l'a compris, mais des demandes, ou est-ce que c'est plutôt vous qui allez chercher
Tu dis qu'on n'a pas trop de demandes,
ouais, mais... En fait, on a beaucoup de demandes quand même.
On a quand même une 60aine, voire 70 demandes sur les 31 qui exposent.
Du coup, il y a une personne sur deux qu'on ne peut pas prendre. Et ça, c'est toujours super délicat à choisir. Et
c'est quoi le critère ? C'est la place ?
Déjà, il n'y a que 30 places. Et puis après, il faut un peu équilibrer pour qu'il y en ait pour tous les goûts, même si ce n'est pas forcément les nôtres. Quand il y a 10 sculpteurs qui veulent venir, ce n'est pas possible sur 30 places. On essaye aussi que ce soit en termes de prix, qu'il y ait des choses pour toutes les bourses, que les gens puissent se faire plaisir et aussi regarder des choses beaucoup plus artistiques. Enfin, il faut vraiment équilibrer, puis selon les techniques...
En général, il y a moins de sculptures que d'autres choses, que d'utilitaires. Il y a plus d'utilitaires que de sculptures, parce que la sculpture, voilà, c'est pas très abordable.
Oui, c'est assez rarement abordable. D'ailleurs, souvent les gens sont contents de voir ça comme une exposition, mais ça doit être même assez frustrant.
C'est frustrant
aussi pour
celui qui expose aussi. Mmh. Donc souvent, les sculpteurs vont exposer plutôt en galerie ou à des endroits où ils savent qu'ils vont vendre, qu'ils vont avoir des contacts. Mais après, ça peut arriver que certains vendent des pièces chères et arrivent à vendre.
Par exemple, ici, là, il y a quelqu'un qui va venir qui s'appelle Florent, qui fait de l'art, on peut dire, quoi, et qui vend super bien ici. Ce qu'il fait, c'est très graphique, un peu BD, comme ça, un peu barré. Et ça, par exemple, Adi, il a vraiment sa clientèle.
Et Adi, les gens nous demandent s'il va venir.
Et c'est des pièces qui valent cher, quoi. Et le bol est à 25 euros minimum, quoi. Il a sa clientèle ici. Du coup, c'est ça, faut arriver aussi, qu'on choisisse des gens qu'on pense qu'ils vont vendre un peu ici, quoi, pour pas qu'ils soient trop déçus et dégoûtés d'être venus. Et
puis, il y a l'équilibre aussi des techniques. On en parlait. Par exemple, pour continuer sur Florent, lui, il fait de la porcelaine. Et la porcelaine, c'est la technique qui cuit, la terre qui cuit le plus haut dans la poterie. La plus haute température. Et c'est une poterie fermée. Parce que même si on ne met pas d'émail dessus, même si on ne fait pas fondre d'émail, la poterie, elle est imperméable, sans qu'il y ait besoin de l'émailler, en fait.
Oui, parce que tout à l'heure, tu as déjà cité, Fanny, le mot fermé, poterie fermée. Alors, poterie... précisons, une poterie fermée, c'est vraiment que plus rien ne passe au travers.
Plus rien ne passe.
Ni ne sort de la terre.
Non. Par la terre elle-même, en fait, qui, en cuisant, va se ramollir, se ratatiner sur elle-même, jusqu'à fermer tous ses pores.
Mmh. Elle se vitrifie, elle devient comme du verre, en fait.
Voilà.
C'est
la terre qui se vitrifie, entre guillemets.
Ça, c'est les techniques du coup de haute température, la porcelaine et le grès.
Et le grès, ça en fait partie aussi. Voilà. Donc sur ces terres fermées, on va adapter des émaux qui vont aussi accompagner toute la fusion et qui vont vraiment s'accrocher à cette terre. Parce qu'après, tous les émaux ne sont pas compatibles avec toutes les terres. Donc sur les terres fermées, on fait des émaux de haute température. Ce sont des émaux particuliers en fait.
Pour simplifier les émaux, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on peut dire que c'est à peu près du verre.
Voilà, on va faire fondre un verre qui va s'adapter à la terre.
Et c'est souvent entre la couche de terre et cette couche d'émail qu'on dessine ou qu'on fait la partie graphique de la pièce.
Par exemple, pour Florent, lui, il va dessiner sur la terre crue avec des couleurs qui vont cuire, qui vont tenir après cuisson. Il va mettre un émail transparent, par exemple, pour laisser apparaître le dessin. Mais on peut aussi faire comme de la peinture avec les émaux qui sont colorés dans la masse, et on va les superposer, on va en faire comme des couvertes de couleurs pour peindre sur les céramiques.
En fait, l'émail, il peut servir de vernis pour une décoration sur la terre, ou il peut servir de décoration en soie grâce à l'émail. Il peut y avoir des couleurs
des effets d'émaux, voilà. En fait.
Ça, c'est deux techniques, mais pour chaque pour chaque type de terre, on peut utiliser ces deux techniques-là aussi. En fait, il y a autant de techniques que de potiers, quoi. Vraiment, il y a
en gros, pas trop, là, on peut. Ouais. Après, voilà, il faut que les matériaux soient adaptés à la température donnée pour la terre.
Et puis, je sais qu'il y en a qu'on peut faire cuire tranquillement avec du bois, avec de la cendre, ce genre de choses. Puis d'autres qu'on ne peut pas du tout. Il faut avoir un fourreau très spécial. Tu parlais de haute température. Alors là, il faut.
Alors, les hautes températures peuvent se cuire au bois. C'est ce qu'ils faisaient avant, les anciens. Ils avaient des gros, gros fours à bois et ils mettaient 20 stères pour faire la cuisson. Mais voilà, mais ça atteignait quand même les 1280 degrés voulus parce qu'ils avaient le four adapté. Après, peut-être que tu veux parler de raku.
Oui, c'est ça. Moi, je ne connais pas vraiment les noms. Hein. Je suis désolée.
Alors, le raku, c'est le mythe des gens qui entendent parler de poterie. Pour eux, poterie égale raku.
C'est la technique impressionnante.
Non. Alors là, je ne savais pas du tout.
Si, non, mais en général, c'est les gens, ils disent « Ah, c'est du raku parce que c'est... » C'est un truc qui fait un peu rigoler entre potiers parce que c'est vraiment une technique qui est très spectaculaire et du coup qui attire vachement les...
Voilà, qui est très impressionnante comme tu dis.
Ouais. Voilà, ça attire l'œil.
Dès que les gens voient un émail craquelé et une terre noire, pour eux c'est du raku. Voilà, parce qu'en fait le raku c'est une technique, donc là c'est de la terre. C'est une cuisson de basse température, contrairement au grès à la porcelaine. On va faire fondre l'émail. Et quand l'émail est encore, quand la poterie est encore incandescente dans le four à 1000 degrés, on va ouvrir la porte du four, on va sortir la pièce avec des pinces, former des gants et tout d'abord, et on va l'enfumer.
Et au moment où on ouvre le four à cette température-là, on pète tout un peu, non ?
Oui, en fait.
Faut quand même le dire. Ouais.
Non, on pète que l'émail pour faire craqueler l'émail. Des fois, les pièces pètent aussi, mais normalement, tout l'art du potier qui fait du raku, c'est de sortir la pièce. Sans faire péter sa pièce.
C'est des terres un peu spécifiques aussi.
Ce sont des terres qui ont des grains à l'intérieur de la chamotte, ce qu'on appelle de la chamotte. C'est des grains de terre déjà cuites qui permettent d'éviter les chocs, justement les chocs thermiques, qui encaissent les chocs thermiques. Il n'y a que l'émail qui va craqueler. Et ensuite, on va enfumer la pièce. Donc la fumée va rentrer dans les craquelures de l'émail et ça va donner un effet vieilli. Voilà. Et à l'endroit où il n'y aura pas d'émail, la terre va absorber la fumée et va devenir noire. Voilà.
Vous voulez en détailler quelques autres techniques peut-être
juste parler de la technique un peu traditionnelle du coin.
Oui.
La terre vernissée.
Par exemple,
c'est vraiment le truc du coin. Quoi. Après, il n'y en a pas forcément beaucoup qu'on fait ici, mais du coup, ça, c'est la terre qui est souvent rouge, avec des dessins souvent assez figuratifs. En fait, on va peindre la terre crue avec de la terre colorée, qu'on appelle de l'engobe. Donc, il peut y avoir toutes sortes de couleurs.
En général, dans la Drôme, c'est un engobe blanc. On va recouvrir la terre rouge avec de l'engobe blanc.
Et après, on peint avec des couleurs, mais un peu mélangées avec de la terre. On cuit ça une première fois. Et après, on le recouvre d'un émail.
Un émail transparent.
Qui donne vraiment l'effet vernis. Et souvent, c'est assez figuratif. On peut voir comme cela des poules et des vaches.
Ou des fleurs.
Des petites filles ou des fleurs. Voilà, c'est vraiment le truc du coin. Des olives. Voilà.
Ah oui, par exemple.
Très important, les olives.
Voilà. Mais ça, il n'y en aura pas beaucoup des olives sur le marché.
Il n'y aura pas beaucoup d'olives, mais il y aura de la terre vernissée.
Il y aura un peu de terre vernissée. Mais par exemple, il y a Ushang, Vada, qui va faire de la terre vernissée avec des visages ou des chevaux. Il y a Marie Truchot qui fait aussi de la terre vernissée avec des personnages.
Ah, mais pour ceux que ça intéresse, en fait, sur les marchés, c'est vraiment agréable pour les potiers de répondre. aux questions sur leur technique et tout ça, quoi.
Ouais, c'est ça, on n'en dit pas trop. Parce voilà. Que...
Puis en fait, c'est pas évident sans visualiser, quoi. Mmh. Et à dit là, ça va être assez diversifié quand même les productions de
chacun. On a essayé d'équilibrer le figuratif de l'abstrait, en fait. C'est parce que c'est difficile. Des fois, on adore des choses, on dit « Ah oui, ça, c'est chouette ». Et puis, à côté, il y a encore un truc qu'on trouve chouette, mais ça se ressemble et du coup, on est obligé de choisir aussi. Mais on essaie de varier au maximum.
Et du coup, on ne peut pas prendre tout le monde.
Ça permet de tourner tous les ans ?
Ça tourne tous les ans. En gros, il y a plus d'un tiers qui est renouvelé tous les ans, en fait.
En fait, ceux qui viennent pour la première fois au marché, ils ont le droit de revenir une deuxième fois. Et ensuite, ils laissent leur place. Voilà.
Par contre, ceux qui reviennent tous les ans, c'est vous ?
Oui,
voilà.
En fait, c'est les locaux locaux.
Les vraiment du, les coin, vrais du coin, quoi.
Parce que sinon, ce serait trop injuste, comme dirait Calimero.
Est-ce qu'on peut citer maintenant la date ? On a entendu musique tout à l'heure. Qui est-ce donc ?
Je te laisse présenter.
Ouais. La musique, c'est incroyable, c'est Navasté. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent ici. Il y avait... Ils étaient même venus là se présenter. Ceux qui feront la musique sur le marché l'après-midi puis le matin. Et puis il n'y aura pas que ça comme animation, il y aura un atelier enfant. En général, c'est vraiment super apprécié. Les parents, ils peuvent faire un petit tour pendant ce temps tranquille pour regarder les poteries.
Un atelier enfant où on apprend
Où on apprend, enfin disons qu'on leur fait bidouiller un peu la terre, sentir ce que c'est cette matière, et leur faire un petit bol à la main.
Puis repartir avec voilà. Aussi.
Du coup, les enfants sont assez fiers. En général, on les voit passer sur le stand après, en nous montrant assez fièrement leur réalisation. Leur réalisation. Et il y aura aussi une démo de tournage, parce que c'est le truc qui fascine les gens, en plus du ragoût. Le tournage, du coup, quelqu'un sera là pour tourner toute la journée sur le marché, pour montrer un peu les gestes et tout ça, de cette technique qu'on pense à ce qu'elle a l'air très facile quand on voit comme ça. Mais...
Ça a l'air magique, mais en fait... Ça a l'air
quand magique, tu vois, c'est magique, mais...
Voilà. Quand tu fais...
Tester une fois...
Voilà, faut tester une fois, voilà, c'est difficile. Ça.
Mais donc, la musique, ce sera en fait toute la journée. C'est pas un concert, y a pas d'horaire. Ce sera le matin, pendant la matinée et pendant l'après-midi. Ce sera la journée animée.
Voilà, vraiment pour animer, quoi.
Thank you. Alors cette journée, c'est quand? Parce qu'on l'a toujours pas dit. Hein.
Ah, suspense. C'est le 19 mai. C'est le samedi qui suit l'ascension. Enfin, c'est le samedi du grand week-end de l'ascension.
À partir de
9h.
De 9h du matin. Donc
jusqu'à 19h.
19h.
Puis pendant que
non-stop entre midi et 2.
Non, pendant que les potiers mangeront, on fera quand même un effort pour aller voir les gens si jamais il y a des gens qui viennent au stand. Il n'y aura pas de vraie coupure, en fait.
Disons que souvent, il y a beaucoup, beaucoup de monde le matin parce qu'il y a le marché.
Il y a le marché.
Du coup, si les gens veulent faire un tour plus tranquillement et discuter avec les potiers, je pense que c'est toujours mieux de venir l'après-midi.
Oui, c'est plus calme.
Parce que le matin, c'est la grosse affluence et les poussettes et tout ça, quoi.
Le 19 mai, ça veut dire que c'est quand même un marché qui s'adresse en priorité quand même aux locaux. Ça n'a pas tout à fait commencé la saison touristique, on va dire. Peut-être, est-ce qu'au mois de juin, juillet, est-ce qu'en juillet-août, peut-être même, il n'y aurait pas...
En fait, c'est déjà un gros week-end et les marchés potiers, c'est bon pour des gens qui ne s'y intéressent pas du tout. Ça peut paraître un peu insignifiant, mais il y a des gens qui se déplacent de loin vraiment pour ça, quoi. Mmh. De Valence, Montélimar, Grenoble, des gens qui viennent exprès... en week-end, parce qu'en fait, on ne peut pas les trouver partout. Les potiers sont souvent enterrés dans leurs ateliers. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amateurs de poterie, en fait. Du coup, il y a quand même des gens qui se déplacent exprès, plus les locaux qui sont contents de retrouver un peu toute l'offre locale, plus des gens qu'ils n'ont jamais vus. Plus, finalement, c'est déjà un week-end où les gîtes sont pas mal remplis et les résidences secondaires commencent à descendre en mai, quand il fait beau. Il fera beau sûrement.
Oui. Voilà. Et pour revenir à l'historique, en fait, au début, le marché avait lieu en juillet. Et il a été déplacé en mai parce qu'en fait, en juillet, il faisait extrêmement chaud. C'est la raison pour laquelle on l'a avancé au printemps. On s'est dit que c'était plus sympa.
Mais l'année dernière, il faisait extrêmement moche.
Oui, mais en fait, c'était vraiment une exception. Parce que les autres années, il faisait assez beau. Enfin, il y a eu des années où on a eu très chaud aussi. Au Mazel.
Non, c'était pas pour décourager les gens, hein, mais.
Au mois de mai. Non, mais l'année dernière, il y a eu un orage fantastique à 5h du soir, en fait.
Voilà.
Mais avant, c'était pas l'horreur.
Non, ça va, c'était pas pire.
Voilà. Non, mais ça va aller.
C'est tout ce que je vous souhaite, hein, du beau temps.
Ouais, nous aussi, on espère.
Ben, écoutez, merci à toutes les deux pour cette présentation. Est-ce qu'on peut vous trouver l'association quelque part? Est-ce qu'on peut vous joindre, adhérer peut-être sans être potier? Je ne sais pas comment ça se passe. Site internet?
L'association, elle est représentée par nous deux. Enfin, moi, je suis la présidente et Fanny, la trésorière. Et il y a aussi Nathalie, qui est potière à Pontet, qui est trésorière. Non, je confonds. Elle est secrétaire. Toi, t'es trésorière.
Peut-être que le plus simple, si vous avez besoin de renseignements ou de nous contacter, c'est peut-être d'aller voir à l'atelier boutique de Cathy Dessouza et de François Lagrange qui s'appelle L'Entrepôt, qui est rue de l'Armellerie. Du coup, qui est un peu centrale d'Andy et que les gens connaissent en général. C'est une toute petite boutique avec des poteries et puis même des sacs maintenant et des peintures. Voilà, du coup, là, il y a toutes les infos et puis...
si les gens ont des questions, par Gmail, on a fait un Gmail.
Donc c'est marché.potier.di@gmail.com.
Et voilà. Potier au singulier.
Marché au singulier.
Voilà.
Merci à toutes les deux.
Merci.